Le carrefour de l'info sur Arabelle.
Et dans votre carrefour de l'information, aujourd'hui, on a deux invités pour parler identité, transmission et parcours de vie avec des invités d'ailleurs passionnants. Rim Harara, qui est chercheuse spécialisée dans les questions liées aux migrations, aux dynamiques identitaires et aux enjeux culturels. Bonjour.
Bonjour, monsieur Tariq.
Et avec nous, Jamal Din Tedlaoui, docteur en sociologie politique. Il travaille d'ailleurs depuis plusieurs années sur les dynamiques d'intégration des populations issues justement de l'immigration. Jamal Din Tedlaoui, bonjour.
Bonjour, c'est Tariq.
Merci à vous deux d'être avec nous sur Arabelle. Peut-être que je vais commencer avec vous. Je sais que, non, honneur aux dames, mais exceptionnellement, je vais commencer avec Cité de la Oui, avec une première question toute simple pour commencer. Pourquoi avoir lancé cette recherche-action, disons, sur les Marocains de Belgique? Qu'est-ce qui vous a, disons, manqué dans les études précédentes existantes?
C'est une étude-action. C'est sur la base du doctorat que Rim a pu faire à l'université qu'on a décidé de faire ce livre-là. Mmh. Donc, elle serait à même mieux de parler de son parcours doctoral que moi. Moi, je l'ai accompagné dans la finalisation de son doctorat. Mmh. Tous les deux, on a convenu de faire ce livre-là sur les identités, la construction identitaire de ces trois générations de Marocains à partir des immigrés qui étaient là depuis 1960.
Oui, on y reviendra dans quelques instants. Je vous pose justement aussi la question à vous, Rim Harara. C'est quoi le déclic finalement?
Le déclic, ça, c'est arrivé quand je suis venue ici en 2008. Alors, je suis venue dans le cadre de du regroupement familial. Et puis, j'ai été surprise par la présence massive des Marocains ici en Belgique. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi ils sont là? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un master en sciences du travail. Donc, j'ai étudié la question de l'immigration. D'abord, pourquoi les immigrés sont habilités à trouver du travail dans les associations, mais pas dans des jobs en tant que tels. Donc, c'était ma première expérience avec les immigrés. Puis après, j'ai poursuivi mes études avec un doctorat que j'ai commencé en 2013. C'est à ce moment-là que je voulais connaître les dynamiques migratoires. Mmh. Pourquoi les Marocains sont-ils ici? Qu'est-ce qu'ils font là? Et cette arrivée massive des Marocains, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont bien reçus? Est-ce qu'ils trouvent facilement du travail? Eh bien, je voulais savoir, je me suis posé beaucoup de questions et c'est à travers ce doctorat que j'ai pu répondre à plusieurs questions et j'ai pu comprendre le parcours migratoire des Marocains de Belgique. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les générations, c'est-à-dire aux trois générations depuis 1960 jusqu'à 2020.
Alors justement, Rim Harara, quand on parle de construction identitaire, ça peut sembler quelque part abstrait. Alors concrètement, ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours?
Tout à fait. La construction identitaire est un procédé qui est très complexe. Donc dans la vie quotidienne, la construction identitaire, ce n'est pas quelque chose qui est d'abstrait ou de figé. Mmh. C'est la manière dont les individus se définissent, se positionnent en fonction des contextes dans lesquels ils évoluent. Donc l'identité est une construction composite qui se fait tout au long de la vie et ça se joue aussi dans des situations très ordinaires telles que la langue qu'on choisit de parler, selon qu'on est à la maison, selon qu'on est au travail, dans la rue, etc. La façon dont on se présente, je suis marocaine, je suis belgo-marocaine, je suis bruxelloise, et aussi les pratiques culturelles ou religieuses qu'on adapte ou parfois qu'on met à distance. Mmh. Donc tout ça, ça nous rappelle que la construction identitaire est un concept qui est composite, on le fait, c'est-à-dire on le construit tout au long de la vie et ça s'influence et notre identité elle est influencée tellement par nos expériences, par nos vécus, par nos relations, etc.
Alors vous avez évoqué les trois générations, on va parler de la première génération, celle des parents ou encore des grands-parents qui a souvent été citée et décrite comme sacrificielle. Est-ce que votre recherche confirme cette idée finalement?
Si on dit que la première génération elle est sacrificielle, c'est-à-dire c'est une question qui mérite d'être nuancée. La première génération elle s'inscrit souvent dans une logique de sacrifice, oui, parce qu'ils ont fait c'est une émigration économique, c'est l'abandon des familles au Maroc, c'est aller voir l'inconnu. Ils sont venus ici, ils ne connaissaient rien du tout, ils connaissaient pas la langue aussi, et donc les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé leur fonction étaient très difficiles. Donc ce sont des gens aussi, cette première génération, elle a mis entre parenthèses ses projets de vie. Elle est venue ici, elle a sacrifié beaucoup de choses. Mais aussi, c'était une génération qui donne l'exemple pour toutes les autres générations. Donc, c'est elle qui a milité, c'est elle qui a travaillé, c'est elle qui s'est résiliée, c'est elle qui a mis du courage. Donc, dans son sac à dos qui était vide de plusieurs choses, mais son sac, il était rempli de courage, de beaucoup de courage et de peu de rêves. Donc, c'est une génération qui a montré le chemin aux générations subséquentes.
Alors, justement, les jeunes, aujourd'hui, chez nous, nés en Belgique, est-ce qu'ils vivent toujours coincés entre deux mondes, problèmes identitaires, ou bien on est passé quelque part à autre chose ?
Les jeunes, tout au long de leur vie, comme leurs aînés, ils sont dans un processus de construction identitaire. Mmh. Donc il n'y a pas une fracture nette entre ce que les parents ont vécu et puis ce qu'ils continuent à concevoir, à vivre, à interagir avec le milieu dans lequel ils vivent. Mmh. Donc c'est comme le dit Amin Malouf, les identités, c'est des identités composites. Hein. Donc la socialisation primaire va permettre à ces jeunes-là d'avoir des bribes culturelles de leurs parents, de leurs grands-parents. Et puis eux, ils s'approprient tout cela. Ils les façonnent à leur goût, en fonction du contexte dans lequel ils sont. Et quand ils sont, par exemple, dans cette deuxième socialisation, notamment ici en Belgique.
Alors, vous introduisez aussi un concept plutôt intéressant dans votre ouvrage, le capital associé. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu bizarre, intriguant. Mmh. Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu tout ça ?
Oui, bien sûr. Alors, le capital associé ou le capital associatif, ce sont tout l'ensemble des ressources que toutes les générations, elles ont mis en action dans les associations, puisque la première génération, c'est elle qui a initié les associations de type religieuse. Puis, quand les générations sont venues, la deuxième génération, elle a introduit d'autres activités dans les associations, telles que les activités culturelles, sociales, les activités sportives, etc. Puis la troisième génération, elle est venue pour introduire aussi de nouvelles activités plus politiques et autres, environnementales, et toutes ces ressources-là qu'ils ont mis ensemble dans les associations, ça représente un capital associatif qui leur a permis de s'intégrer, qui leur a permis une visibilité, mais aussi une reconnaissance. Donc ils sont là, ils ont agi sur leur société. Ils n'ont pas pris leur société en tant que telle, mais ils ont participé, ils ont transformé la société et par la suite, ils ont été visibles et reconnus dans la société d'accueil. Donc pour les uns, bien sûr, la Belgique, c'est la société d'accueil des uns, mais aussi c'est la société d'origine de la troisième génération et parfois de la deuxième génération. Donc ce sont des ressources qu'ils ont construites collectivement pour un bien-être collectif.
Alors Rim Harara, Jamal Adine Tadlaoui, ne bougez surtout pas, on marque une courte pause et on se retrouve juste après.
Le carrefour de l'info sur Arabelle.
Et on retrouve nos invités, Rim Harara et Jamal Adine Tadlaoui. Je me tourne vers vous, Jamal Adine Tadlaoui, justement, pour poursuivre un peu cet éclairage sur ce capital associé.
Donc, le capital associatif ou associé fait une suite relativement logique des différents capitaux développés par Bourdieu, il y a quelques années déjà, qui parlait du capital économique, du capital social et du capital symbolique. Nous, à l'issue de ce travail relatif à l'évolution des transmissions intergénérationnelles, on s'est rendu compte que le passage ou les différents passages successifs des trois générations dans les associations leur a permis de développer une dextérité, une façon un nouveau sens pour pouvoir se l'approprier et s'intégrer. Donc s'intégrer veut dire à devenir citoyen dans la société d'accueil qui est la société belge. Donc cet élément-là, il ne nie pas ce que Bourdieu a déjà réalisé, mais il le poursuit. C'est une continuité sans pour autant nier les découvertes précédentes. Donc on veut mettre en valeur le rôle joué et par les acteurs qui est impliqué dans les associations de différents types. Hein. Donc, je peux même faire un petit glissement vers le Québec, d'où je viens, oui. Où la place des associations est telle que, oui, c'est un passage obligé, on pourrait dire, pour les populations immigrées. afin de s'habituer des us et des coutumes de nouveaux milieux, et puis de faire un tremplin vers le milieu de travail traditionnel.
Voilà, juste un clin d'œil par rapport au Québec, à signaler que vous êtes tous deux enseignants dans des universités à Montréal. Une précision peut-être là-dessus, Jamaldine Tedlaoui.
Oui, ben, j'enseigne dans les trois universités du Québec à Montréal, l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke, où on a développé ce qu'on appelle un programme de médiation interculturelle, quelque chose qui est intéressant et qui est aussi intégré dans notre livre. Mm-hmm. Donc la dimension interculturalité a été traitée dans notre livre pour dire que les trois générations en lien avec la société d'accueil, transmettent, reçoivent des idées de part et d'autre pour se former et à accomplir ce capital associatif afin de bien s'intégrer dans la société d'accueil.
Rimara, aussi, vous avez des attaches avec le Québec.
Oh, oui, tout à fait. Donc, je suis allée au Québec pour une mission. Donc, j'étais project manager dans un centre communautaire où je faisais des activités pour les émigrés. Et c'est à partir de là que j'ai compris que les associations communautaires demeurent un levier justement d'intégration pour les émigrés. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces associations-là qu'ils vont comprendre, ils vont apprendre déjà la langue du pays, ils vont apprendre le mode de vie du pays, ils vont apprendre ils vont acquérir plusieurs ressources qui vont leur permettre une visibilité, une reconnaissance, une participation citoyenne. Et combien de fois j'ai rencontré, c'est-à-dire des gens sont passés par le centre où je travaillais et par la suite, ces personnes ont eux-mêmes initié leur propre activité qui leur a permis un développement personnel mais aussi communautaire. Et j'ai envie aussi de rebondir sur le capital associatif qui est une plus-value de notre livre. C'est parce que les émigrés, quand ils s'associent dans des associations communautaires, c'est là où il y a des soutiens divers. Le soutien affectif, le soutien de famille, le soutien moral, la confiance. Il y a des relations de support. Donc, la transmission, elle se fait d'une façon, c'est-à-dire pas de contraintes, pas de pression, mais d'une façon normale. Et les transmissions, elles sont comprises entre les générations. Et par la suite, on va avoir une visibilité, une reconnaissance de toutes ces personnes-là qui travaillent dans les associations.
Alors, on va enchaîner à présent sur la question essentielle, celle des racines. Le lien avec le Maroc, est-ce qu'il reste assez fort chez les nouvelles générations ou au contraire, est-ce qu'on assiste à une forme, disons, d'ancrage pleinement belge aujourd'hui ?
Ben, l'enracinement qui passe par le grand-père, qu'on appelle les exilés volontaires, les regroupés familiaux, les parents, il est relativement dilué, hein, dilué, tout en ayant ces liens sporadiques, j'allais dire. Hein, on revient en vacances, on va découvrir d'autres choses, mais les grands-parents insistent beaucoup sur cette dimension d'ancrage culturel, religieux et au niveau de la langue. Hein, au niveau de la langue. Donc c'est quelque chose. Ce sont des éléments distincts. La langue est un élément distinctif de l'identité. Et les parents, les grands-parents notamment, ont beaucoup travaillé là-dessus afin qu'ils gardent ce lien, non seulement affectif, mais du vocabulaire, de sens, et puis de rêve aussi à travers la langue, que ce soit arabe, pas classique, oui. Mais la darija ou bien tarifite, des populations qui viennent du Rif, oui. Du Maroc, pour s'installer en Belgique.
Alors justement, ce sentiment d'appartenance multiple, est-ce qu'il est vécu comme une richesse ou parfois comme un tiraillement pour ces...
Écoutez, d'après les récits de vie de la troisième génération, ils ont compris que c'est une richesse, parce que la possession de culture pour ces personnes-là est un attribut identitaire fort, et ils se considèrent comme riches par rapport à leurs collègues, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, puisqu'ils détiennent deux cultures, deux langues, ils détiennent des rites que les autres n'ont pas, et on a remarqué que cette troisième génération, elle est plus attachée à la culture marocaine, parce que c'est un attribut qu'eux, ils ne veulent pas perdre. Donc, ils se sentent plus riches, ils se sentent ils ont des différentes choses plus que les autres. Donc, ils sont particuliers, et ce sont des attributs identitaires auxquels ils sont fiers.
Alors dans votre livre, je le montre d'ailleurs à la caméra, Construction identitaire et stratégie familiale, on comprend que les jeunes deviennent quelque part, entre guillemets, des passeurs. Concrètement, ils font le lien entre qui et qui ?
Ben justement, l'idée du passeur, ce qu'on appelle dans le livre Ils sont tous les trois générations sont des médiateurs qui s'ignorent. Donc, ils font le lien entre le Maroc à travers le grand-père, le père, je parle du petit-fils ou du fils, et chacun va apporter une certaine, pardon, une certaine plus-value de ce que vit chacun, chacune des générations. Donc, ce lien que j'appelle médiation interculturelle, il y a certains qui vont travailler cette médiation culturelle. Il y a une différence entre l'interculturel, le culturel et le transculturel. Chacune des générations va avoir une niche de médiation en fonction de ce qu'elle a pour pouvoir le transmettre, le partager et en se l'appropriant à travers cet espace associatif. Hein. Il faut le garder en tête. Donc le lien du petit-fils avec le transculturel, avec le Maroc, il est là, mais il se l'approprie de différentes façons, pas comme le cadet, la génération pivot, les deuxièmes générations ou les premières générations.
Alors, oui,
est-ce que je peux rebondir je vais
t'expliquer aussi par rapport à l'image ici, à l'illustration. Dans cette image-là, il y a le grand-père, le père et le petit-fils qui sont autour d'une table. Ça veut dire qu'il y a une transmission circulaire. Mais cette transmission, elle est en même temps ascendante et descendante. Chacun transmet à l'autre génération ce qu'elle voit utile, nécessaire, et ils sont engagés tous dans une transmission. Ce qui est aussi important de dire, c'est que la troisième génération, qui sont les cadets, ils transmettent aussi. Ils transmettent quoi ? Ils transmettent tout ce qui est informatique. Tout ce qui est, par exemple, ce sont eux qui ont aidé leurs parents et grands-parents à avoir le WhatsApp, à avoir le web, à être toujours
connectés.
Voilà. Donc ça, c'est une transmission qui est particulière par rapport à la jeunesse. Mais les cadets, les aînés aussi, ils ont des transmissions culturelles, des transmissions de solidarité, que ce soit la solidarité avec la famille d'ici ou la famille de là-bas. Donc tout ça, ça reste des transmissions diversifiées entre les trois générations.
Et si je peux rebondir, c'est que la transmission ne se limite pas à une niche particulière. Hein. On passe autant des valeurs, on passe de la langue, d'accord, et du sens de la vie. Hein, du sens de la vie, donc les jeunes qui sont nés ici en Belgique, donc qui essaient d'apprendre la langue enseignée à la maison, que ce soit le Darija ou Tarifit ou Tashlihit. Donc les parents, ils ont quand même un certain scrupule, d'une certaine façon. Ils auraient souhaité que leur progéniture apprenne davantage l'arabe, apprenne davantage les rites et les rituels, etc., etc. Mais les jeunes, ils l'apprennent en fonction de leurs appropriations. Donc, en s'adaptant dans leur milieu de vie, tout en étant eux-mêmes. Donc, hormis les différentes difficultés qu'on peut vivre hein, dans un espace d'immigration pour les premières et les deuxièmes générations.
Alors, quelques mots à présent, si vous voulez bien, de la réussite sociale. Est-ce que, d'après vous, ça change un petit peu la manière de vivre son identité ?
La réussite sociale est un ascenseur. Hein. C'est un ascenseur social qui permet de prendre davantage de place au soleil. Et les grands-parents ont beaucoup travaillé, y compris avec les cadets, la génération pivot, afin que la troisième génération puisse faire des études longues, puissent se spécialiser dans telle ou telle sphère de la vie et puis qui soit dans les différents espaces même de décision. Comme on le voit aujourd'hui, on ne les a pas étudiés hein, dans notre livre. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de Marocains qui font de la politique, par exemple. Hein. Donc, et des commerçants, des gens qui ont des espaces de développement assez significatifs.
Alors, je peux aussi ajouter, corroborer ce que professeur Jamaldine vient de dire, c'est que la première génération, quand elle est venue ici en Belgique, elle était illettrée. La deuxième génération, elle avait fait une partie de ses études au Maroc, puis elle les a complétées ici, à travers les écoles professionnelles et techniques. Alors que la troisième génération, elle a fait des études supérieures, universitaires, etc. Et cette, malgré
malgré la détention de ces diplômes, cette troisième génération n'est pas arrivée à s'accomplir dans le monde du travail. Elle a toujours, il y a des gens bien sûr qui ont réussi, mais des gens qui d'autres personnes de la troisième génération qui n'arrivent pas à trouver un emploi ou qui rament. Donc c'est pour ça qu'on voit que oui, les diplômes c'est un ascenseur social, mais parfois il peut être un handicap aussi pour la troisième, notamment pour certaines personnes de la troisième génération, à ne pas aller plus loin dans leur réussite professionnelle.
Alors, on va parler de votre présence chez nous, en Belgique, pour faire quelque part aussi la promotion de votre ouvrage. Vous êtes là pour pas mal de temps. C'est une vraie tournée qui a déjà commencé. Quels sont un petit peu vos objectifs ?
Nos objectifs, c'est de mettre de l'avant certains éléments en lien avec l'immigration. D'accord ? L'immigration... Et puis en comparaison avec ce qu'on vit dans le champ migratoire au niveau du Canada, etc. D'abord, les associations qui sont mal vues, indexées très souvent par les gouvernements, d'être marginales, d'être...
Manipulées,
instrumentalisées, radicalisées, etc., oui. etc. Notre livre vient pour dire, écoutez, il faut que vous puissiez changer votre regard par rapport à ces associations-là qui permettent et qui travaillent à la place des gouvernements en vue d'intégrer de différentes façons, certes, les personnes issues d'immigration, mais c'est quelque chose qui est clair et net dans la mesure où aussi les grands-parents sont venus seulement avec... en pensant à un aller-retour, mais ils sont restés. Donc, ils ont développé ce capital associatif pour autant asseoir leurs arrières, tout en gardant les liens avec le pays d'origine. Donc, il est, ce capital associatif. Deuxièmement, c'est que le cheminement de ces trois générations n'est qu'un alibi qui pourrait être utilisé pour analyser, travailler les différents autres mouvements migratoires, que ce soit au Québec, que ce soit en France ou ailleurs. Donc ce sont selon nous, à moins que Rim veuille ajouter quelque chose là-dessus, parce que c'est les deux éléments essentiels, la mise en valeur des associations, en vue qu'ils prennent aussi un autre ancrage, un autre regard sur leur travail qu'ils font, en découvrant ce capital associatif notamment.
Alors, il nous reste 4 petites minutes, encore dans 2-3 questions, on va essayer peut-être d'aller un peu plus rapidement, peut-être vous voulez ajouter quelque chose,
Dima. Oui, merci beaucoup Tarek. Donc ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, parce que la première génération, elle a milité pour être ici, pour faciliter c'est-à-dire l'intégration des autres générations. Donc cette première génération, on aimerait bien la saluer et lui présenter franchement toutes les honneurs qu'elle mérite. Et puis, que le parcours migratoire de ces trois générations soit enseigné dans les écoles, qu'il soit, divulgué dans les espaces publics, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses pour la société belge, et c'est grâce aussi à ces trois générations que le développement s'est institué en Belgique, et il faut le dire, il faut l'enseigner, et il faut le proclamer partout.
Alors voilà. Je reviens à la tournée, donc vous allez à la rencontre du public, oui. Il y a des conférences, des débats, qu'est-ce qui se passe ?
Tout à fait.
Oui, tout à fait. Donc, on est allé à Liège, on est allé...
À l'Université de Liège, à l'IRFAM avec le CRIPEL. On est allé aussi on ira aujourd'hui, c'est Arabelle et puis le consulat du Maroc à Bruxelles. Et puis le samedi, c'est la maison des aînés de Charleroi avec le CRIC de Charleroi. Et le mardi prochain, le 31, c'est avec le musée de Bruxelles, de la migration de Bruxelles. Et donc, notre objectif, c'est de faire valoir justement cette immigration marocaine ici en Belgique.
Et surtout donc c'est d'inviter les lecteurs de ce livre-là à travers les échanges qu'on a eus avec les étudiants, avec les enseignants, avec les politiques, qui puissent se dire il y a une autre grille de lecture de ce que vivent les associations et les générations immigrantes, notamment marocaines. Donc, ce sont des citoyens comme les autres citoyens nés ici, et il faut qu'ils aient toute la place, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, et qu'elle soit au niveau de cette reconnaissance de la dignité.
Alors, si un jeune ou une jeune marocaine de Belgique nous écoute aujourd'hui, si vous avez un message à lui faire passer, par exemple, Aymara.
Moi, ce que j'aimerais bien passer, c'est que soyez fiers de votre culture, de vos parents, du cheminement de vos parents, de l'immigration par lesquelles est passé vos parents, vos aînés. Donc, vous êtes là. C'est vrai que les jeunes n'ont pas connu de cheminement migratoire, mais ils sont là, ils sont nés ici, ils doivent être, c'est-à-dire traités au même niveau que les Belges. Donc, soyez corrects surtout dans vos études, dans vos espérez. Ayez des rêves dans ce pays-là parce que tout est possible, il y a le monde des possibles ici, donc réalisez vos rêves, allez très loin dans vos aspirations et que Dieu vous aide.
Alors il reste encore une petite minute, peut-être vers vous Jamel Dine Tadlaoui, une question simple mais aussi importante, si on peut résumer, je sais que c'est pas évident, mais résumez votre ouvrage en une phrase forte, symbolique, ce serait quoi?
Ben, ça serait créativité, médiation,
vivre ensemble.
Le mieux vivre ensemble et le respect citoyen de la dignité humaine.
Voilà, c'était Jamel Dine Tadlaoui. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie politique. Vous travaillez depuis plusieurs années sur les dynamiques d'intégration des populations ici de l'immigration. Également avec nous, Rim Harara, qui est chercheuse spécialisée dans les questions liées aux migrations, aux dynamiques identitaires et aux enjeux interculturels. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Construction identitaire et stratégie familiale, à découvrir partout chez nous, dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour de l'Info.